Elaine, this is my Aunt Stella.
Stella! Stella!
Bazinga, punk, now we're even.
You all right?
He's broken, the bone's coming through.
Give me your fucking bone, you prick! Where's my fucking money?
So you had coffee.
Right.
Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Voici leur histoire.
Bien le bonsoir à toutes et tous, nous sommes de retour avec cette deuxième édition déjà de votre émission qui vous parle série télé, série folie, avec Aurore. Bonsoir Aurore, tu vas bien ?
Oui, je vais toujours bien.
En pleine forme, je vois ça ?
Oui.
Eh bien je propose qu'on démarre directement dans le vif du sujet avec les news de la semaine.
Oui, alors première news, c'est NBC qui a annoncé l'annulation de deux sitcoms qu'elle avait lancés à la rentrée de septembre. Il s'agit de The Michael J. Fox Show et de Sean Save the World. Mm-hmm. Alors, pour avoir vu les pilotes des deux séries en question, je crois que c'est pas une grande perte. Hein. Sean Save the World, c'était carrément catastrophique. C'était probablement un des pires pilotes que j'ai pu voir cette année-ci.
Ok.
De Michael J. Fox Show, c'était un peu moins mauvais, mais c'était pas drôle. Et donc, pour une sitcom, c'est quand même un petit peu embêtant.
Ok, donc là, tu n'es pas déçu pour une fois de voir disparaître ces deux séries après avoir vu les pilotes?
Non, pas du tout.
Ok. La suite.
Alors la suite, il s'agit cette fois-ci d'une news concernant la chaîne CW qui reconduit 5 de ses séries. Il s'agit de Supernatural, The Vampire Diaries, Arrow, Reign et The Originals. Mmh. Alors parmi les séries que j'ai citées là, il y avait deux nouvelles séries de la rentrée de septembre à nouveau, c'est Reign et The Originals. Ça signifie que la troisième, The Tomorrow People, j'imagine, n'a pas été reconduite. En ce qui concerne Reign et The Originals, je vais peut-être en dire un mot. Reign, c'est vraiment une série pour midinette. Hein. Si vous êtes une midinette, je crois que vous pouvez très bien apprécier ce genre de série parce que, bah oui, c'est très romantique. Une jeune princesse doit épouser un prince et on suit un petit peu les péripéties amoureuses de cette princesse. Bon, c'est agréable à regarder, mais sans plus, quoi.
Voilà, c'est bon enfant, mais bon, voilà.
Voilà, c'est pour les enfants, à mon avis. Par contre, The Originals, franchement, c'était plutôt une bonne surprise. Bon, à nouveau, il s'agit de la chaîne CW, donc c'est plutôt une série pour adolescents. Mais franchement, pour moi qui n'ai pas suivi The Vampire Diaries, dont elle est le spin-off, ça m'a bien plu et d'ailleurs je continue à la regarder.
Bien.
Alors dernière nouvelle, il s'agit, on sait tous que How I Met Your Mother, qui en est à sa 9e saison, se termine petit à petit et on nous annonce que il va y avoir un spin-off qui s'appellera Oh, I Met Your Dad, et qui a enfin choisi son héroïne, qui sera jouée par l'actrice Greta Gerwig.
Ok, bon, j'espère moi personnellement qu'ils vont pas nécessairement repartir sur 9 saisons.
Oui,
voilà,
peut-être.
C'était un peu tiré en longueur, mais bon.
Voilà, oui, mais écoute, on leur souhaite quand même de nous surprendre. Hein.
Pourquoi pas? Eh bien, je propose qu'on fasse notre première pause musicale avec une musique en rapport avec la série How I Met Your Mothers. Two Beavers Are Better Than One.
Oui, chantée par l'actrice qui joue Robin dans la série, qui est Cubby Smulders, et Camille Rudisil.
Parfait, on se retrouve juste après.
Come on.
just pick up that phone and I'll be there to share my ice cream cone. We'll lick it side by side, and deep inside you'll know before the day is done. Hey Beaver, it's true,
it's true.
I do believe anew,
do believe anew.
I got that fever too,
I got the fever too.
So let's go do what hungry beavers do. It will taste so good. We'll gobble wood and have ourselves some damn good fun. Two beavers are better than one. Two beavers are better than one. They're twice the fun. Ask anyone. A second beaver can be second to none. Two beavers are better than one. Da 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 da.
You're my favorite beaver.
Da 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 da.
Space teens are forever.
Da 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 da.
Don't forget to do your homework. That's cool.
We'll share a root beer float. Learn about how friendship weighs a metric ton.
Everybody!
Two beavers are better than one. Two beavers are better than one. They're twice the fun. Ask anyone. A second beaver can be second to none. Two beavers are better than one. Two beavers are better than one. Two beavers are better than one.
Misty Beaver.
Two beavers are better than one.
I love you, Beaver.
Two beavers are better than one.
Séries nous rendent-elles heureux ? Question saugrenue, je vous l'accorde. Et pourtant, vu le temps qu'on peut passer à regarder certaines d'entre elles, vu les années, voire les décennies que l'on passe à mûrir avec elles, peut-être la question mérite-t-elle d'être posée ? La première réponse que l'on peut apporter, la plus évidente, est celle qui met en lumière le plaisir que l'on peut ressentir devant une bonne série. Qu'il s'agisse des éclats de rire que provoque un épisode de The Big Bang Theory ou bien The Office, du soupir de satisfaction que je pousse lorsqu'une histoire d'amour atteint enfin, après des dizaines d'épisodes, un dénouement heureux, du soulagement ressenti lorsqu'un personnage maléfique reçoit le châtiment qu'il mérite, des moments jouissifs où un personnage ou une intrigue exprime leur plein potentiel, que ce soit dans le what the fuck ou dans le absolument génial, les séries ont mille et une manières de nous faire plaisir. Or, ce plaisir, oui, nous rend heureux, même si ce n'est que pour l'instant qu'il dure. Par ailleurs, en dehors de cet accès immédiat et simple à des petits moments de bonheur, les séries peuvent aussi développer une dimension morale plus profonde. Certaines véhiculent un message optimiste et mobilisateur qui colore notre vision du monde. D'autres soulagent nos peines en nous montrant une justice qui fonctionne, des familles et des amis soudés dans les épreuves, une médecine capable de miracles et d'humanité. Bref, des vies qui ont un sens. D'autres, enfin, nous rendent meilleurs en nous permettant de mieux comprendre ou même parfois de nous identifier à des personnages ou des situations qui nous sont totalement étrangers. Pour toutes ces raisons, oui, je suis persuadée qu'il n'est pas si idiot de croire que les séries peuvent nous rendre heureux du moment, bien entendu, qu'elle ne devienne pas une échappatoire qui nous empêcherait de vivre notre propre existence.
Bien, bien, ça annonce le débat qui va suivre juste après cette pause musicale. Happy Together avec les Turtles, qu'on a pu entendre notamment dans Les Simpsons.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Série Folie, épisode 2, ça continue. On va reparler du sujet, Aurore, que tu nous as si bien présenté il y a quelques minutes de cela. Les séries télé rendent-elles heureux? À t'entendre, en tout cas, je l'ai fait très attentivement, je peux te le dire. Ben, je crois comprendre que oui, en grande partie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas un peu détailler tout cela, nuancer un peu le propos?
Oui, c'est sûr que c'était une introduction et donc j'ai surtout insisté sur le fait que oui, en effet, on pouvait estimer que les séries peuvent parfois nous rendre heureux. Hein. Mais c'est vrai que ben justement, ce qui compte, c'est peut-être ce parfois. Parfois aussi, elles peuvent nous frustrer, elles oui. peuvent nous énerver, elles peuvent presque nous rendre malheureux. Hein. Je sais pas si t'as des exemples en tête, mais un bête exemple, autant on peut être content et véritablement réjoui de voir certaines séries qui nous apportent exactement ce qu'on en attendait et peut-être éventuellement plus que ce qu'on en attendait. Et là, c'est vraiment quasiment la jubilation. Mm-hmm. Mais autant, on l'a aussi vécu, il y a certaines séries qui nous frustrent énormément, qui ne nous donnent pas ce qu'on attend, voire même qui nous déçoivent parce qu'elles étaient tellement bien et petit à petit, elles s'étiolent et elles deviennent n'importe quoi.
Voilà, là je vois déjà un exemple bien concret, notamment Dexter. Je suppose qu'on reviendra sur ce cas précis plus tard dans d'autres émissions. Mais ça, c'est l'exemple type de la série qui vous accroche très très fort au tout début et qui termine en nœud de boudin, on peut le dire comme ça.
Oui, là, c'est exactement le mot, oui, parce que Dexter, c'est vraiment, à mon avis, le summum de la frustration et le pire du pire de ce qu'on pouvait attendre d'une série télé qui était si bien au début. C'est vraiment cruel.
C'est cruel, mais en même temps, on peut peut-être lui pardonner un petit peu à cette série, parce qu'elle nous a quand même procuré beaucoup de plaisir pendant 3, 4, 5 saisons peut-être. Voilà. Il y a eu du plaisir à un moment.
Oui, il y a eu du plaisir.
Bon, après, ça devient une torture de regarder jusqu'à la fin, mais bon, ça c'est un choix, voilà.
Oui, c'est vrai qu'on n'était pas obligé. Hein. On n'était pas obligé. Mais ceci dit, c'est vrai aussi qu'il y a, quelque chose qui s'appelle simplement les attentes que l'on peut avoir d'une série. Mm-hmm. Quand on n'attend rien d'une série, de fait, on risque pas d'être déçu. Avec Dexter, la première saison, le début de la série était tellement bien et était tellement plaisant à regarder que c'est vrai que est-ce qu'on ne pouvait être que déçu par la suite ? Ça, je ne crois quand même pas, parce qu'il y a des séries qui arrivent malgré tout à tenir sur la distance bien mieux que Dexter, mais en tout cas, oui, il faut reconnaître. On peut pas dire tout simplement parce que la fin de Dexter était mauvaise, toute la série est achetée à la poubelle et on va lui mettre un zéro pointé sur toute la ligne.
Voilà, il y a une grosse frustration à la fin, mais bon, en gros, il y avait quand même un bon boulot, au minimum une bonne moitié de cette série.
Voilà, oui. Donc, bon, le cas de Dexter mis de côté, qui est quand même heureusement un peu exceptionnel dans sa perte de qualité. Hein. Mm-hmm. Y a aussi pas mal de séries qui, au fur et à mesure des saisons, voire même déjà dès la première saison, hein, ça arrive aussi, soit ne sont pas drôles, ne nous apportent pas ce qu'on attendait. J'ai cité par exemple le plaisir de voir un couple qui pendant des épisodes et des épisodes se cherche et enfin, ah, le baiser arrive et c'est l'amour qui triomphe. Mais il arrive aussi très souvent que l'épisode d'après, justement, ils s'entendent déjà plus.
Et ils se séparent. C'est presque un miroir aussi de la vie réelle, quelque part. On peut aussi s'identifier aux personnages qu'on regarde. Ça peut être à la fois une souffrance ou une délivrance, selon que le scénario évolue comme nous, on l'aurait souhaité.
Eh oui, c'est un petit peu ça qui est cruel, c'est que même si on s'identifie, ces personnages, c'est pas nous, et c'est pas nous qui sommes aux manettes, donc forcément, on peut aussi avoir pas mal de frustrations, hein, des couples qui se forment alors que c'est pas du tout avec lui ou avec elle qu'on voulait qu'il termine, hein.
Oui.
Ça arrive aussi. Enfin, ouais. Bref, je crois qu'on a tous connu ça quand vraiment on s'accroche à certains personnages, des frustrations, des gens qu'on aime vraiment pas, qu'on voudrait voir mourir et que non, ça met des années avant qu'enfin les scénaristes décident de tuer ce personnage-là. Bon, ça arrive aussi.
Ok, quelle violence.
Donc, le plaisir, oui, mais aussi beaucoup de frustration. Hein.
C'est la vraie vie, quasiment.
Ah, c'est presque la vraie vie, oui. En tout cas, les émotions ressenties, elles, sont bien,
bien
réelles. Hein.
Oui, bien sûr.
Pour ce qui est maintenant du côté un petit peu moins le plaisir direct que peut nous apporter une série, mais plus sur la dimension morale qu'on peut avoir, notamment un message optimiste. J'ai cité le fait que il y a certaines séries qui ont un message tellement optimiste, tellement mobilisateur que pour toute la suite de notre vie, ensuite on est requinqué. On a envie de mordre. On est presque changé. Oui, on a envie vraiment de prendre la vie à bras le corps et de se lancer. Je pense notamment à la série One Tree Hill, les frères Scott, qui est une série pour ados et qui avait, en tout cas, pour certains de ses épisodes, vraiment un message très mobilisateur. Et très agréable, qui est de dire allez-y les gars, n'ayez pas peur, vous réussirez à faire quelque chose de votre vie, ce qui pour une série adolescente est plutôt positif et agréable. Ceci dit, on peut aussi
à l'inverse,
citer d'autres exemples hein, de séries qui, elles, ont un message beaucoup moins positif voilà. Et beaucoup plus déprimant.
Et à la limite, on a l'impression que si on doit vraiment s'identifier à ce qui se passe dans ces séries, ben, on s'en sort pas, il n'y a pas moyen, c'est déprimant presque.
Oui. Là, on a intérêt à pas trop s'accrocher, à un petit peu faire un pas en arrière vis-à-vis du message.
C'est une série télé, ça n'existe à la limite pas, c'est pas possible d'être dans une situation
aussi
pareille.
Aussi déprimant, voilà. Aussi affreux. Bon, dans le domaine de la série adolescent, j'ai traité des frères Scott, mais je pourrais citer une autre série qui, elle aussi, s'adresse aux adolescents, mais qui a un message beaucoup moins positif et mobilisateur, qui serait par exemple Newport Beach, qui est plutôt plombant, hein, surtout au fur et à mesure qu'on avance dans la série, c'est plutôt ça donne pas envie trop de se lancer dans la vie en vrai. Hein. Mais une autre, par exemple, qui est plus récente et qu'on regarde aussi actuellement, c'est par exemple The Walking Dead.
Ah oui, on en parlait hors antenne. Oui, c'est là, c'est l'apogée de l'image de la vie où il y a pas d'espoir quasiment de s'en sortir.
Il n'y a pas d'espoir et la vie n'a absolument aucun sens.
Oui, c'est ça. On se demande pourquoi ils continuent encore à se battre.
Oui, on se demande. Ouais. Et du coup, mais à part vraiment si on est soi-même d'une nature particulièrement optimiste et on se dit « Ah, cette série-là, moi je l'adore parce que je vois à quel point ma vie est bien par rapport à la leur », c'est quand même un peu plombant de voir ces gens qui avancent dans la vie sans aucun but.
Si on doit garder juste l'idée, bon, ben, y a pire dans la vie que ce que moi je suis en train de vivre maintenant. Ouais, je crois pas qu'on ressort avec, je sais pas, on ne sort pas grandi d'avoir vu cette série. Voilà. Nous, on continue à regarder parce qu'on veut voir aussi où ils veulent en venir, mais ça devient un peu lassant sur le principe.
Mais le problème, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils veulent en venir nulle part, et c'est un petit peu ça qui est déprimant.
Okay. Parfait. Bah, je pense qu'on a fait déjà le tour de la question pour cette semaine, en tout cas. On reviendra certainement sur le cas précis d'une ou deux séries dont on a discuté aujourd'hui, certainement en longueur lors de prochains épisodes.
Oui, bien sûr.
Et je te propose de faire une pause musicale à nouveau.
Oui.
Tu nous proposes...
Alors, je vous propose une chanson tirée de la bande originale des Sopranos. C'est « I Feel Free » de Cream.
Parfait, à tout de suite.
I feel free. No, thanks.
Mike, I know you don't care for me. We've had our issues, you and I. But I would suggest that you leave emotion out of this decision.
I am. You are trouble. I'm sorry the kid here doesn't see it, but I sure as hell do. You are a time bomb. Tick, tick, ticking. And I have no intention of being around for the boom.
Voilà un petit extrait en anglais de la série qui va passer sur le grill de la critique cette semaine. Vous l'aurez certainement mieux reconnu grâce à l'extrait musical en musique de fond. Il s'agit évidemment de Breaking Bad, une saison, une série même qui ne nous a pas déçus tout au fil des saisons. Nous allons donc en parler pendant les prochaines minutes avec Aurore qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle en pense.
Alors oui, pour revenir donc sur ce que j'avais dit la semaine passée, donc il s'agit dans la critique d'examiner un petit peu plus en profondeur une série à partir de 5 critères. Le premier de ces critères étant l'intrigue. Alors si on parle de l'intrigue de Breaking Bad, de quoi il s'agit ? Il s'agit de l'histoire d'un petit professeur de chimie sans grande envergure, plutôt minable au départ, hein, qui, suite à l'annonce de sa maladie, c'est-à-dire un cancer, et un cancer qui, à relativement courte échéance, devrait le condamner à mort, décide de se transformer en cook, en cuisinier de méthamphétamine, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille quand il ne sera plus là, pour le faire en personne.
Au départ, le but est, allez, on va dire, louable, même
voilà,
si,
oui,
même
c'est
si
plutôt
les
honorable.
Les moyens pour y arriver vont vite se transformer en des choses assez horribles.
Oui.
Mais bon, voilà.
Alors, bon, donc ça, c'est le pitch de base, et le pitch de base donne plutôt envie de regarder la série, de fait, et donc c'est plutôt plaisant au départ. Le pilote est plutôt agréable et donne envie de continuer à la suivre. Ce qui est encore plus louable, c'est que, au fur et à mesure des saisons, on voit ce personnage évoluer, se transformer, et petit à petit devenir un véritable monstre de cruauté vis-à-vis de ses éventuels opposants, mais aussi un monstre de manipulation vis-à-vis de sa famille et de son collaborateur, on va l'appeler comme ça, le plus proche, qui est un petit dealer de drogue au départ, qui était un de ses anciens élèves dans la première saison, Jesse Pinkman, et avec lequel il va développer au fur et à mesure des saisons, justement, une relation quasiment paternelle, même si derrière cette relation, justement, se cache aussi énormément de manipulation.
Bon, on va dire aussi qu'ils n'ont pas été aidés au cours des saisons et des épisodes. Ils ont un peu la poisse, je dirais. Il leur arrive des péripéties assez énormes. On leur met des embûches quand même.
Oui,
assez compliqué à résoudre. Ils y arrivent toujours très bien.
Mais quand tu dis assez énorme, il faudrait pas non plus donner l'impression que il s'agit de grosses ficelles scénaristiques qui ne sont absolument pas crédibles
et justifiables.
Au contraire,
ça reste tout à fait crédible, ça je suis tout à fait d'accord, mais bon, voilà, c'est un milieu qui de toute manière amène naturellement ce genre de situation, je suppose.
Oui, en tout cas, on suit donc cette intrigue qui évolue, qui se déploie au fil des années avec toujours autant de plaisir jusqu'à son dénouement final qui ne nous déçoit pas par rapport aux attentes qu'on en avait en regardant le premier épisode, et c'est quelque part tout ce qu'on peut attendre d'une bonne série, et ça n'arrive pas si souvent, hein.
Donc c'en est une, voilà.
Voilà, une excellente série en ce qui concerne l'intrigue, en tout cas on peut lui donner carton plein. sur ce sujet. Mm-hmm. Alors, deuxième critère sur lequel on va pouvoir aussi évaluer une série, ce sont les personnages. Est-ce que les personnages sont attachants? Est-ce que les personnages sont, s'ils ne sont pas attachants, au minimum charismatiques, intéressants? Enfin, est-ce qu'ils ont quelque chose qui donne envie de continuer à regarder la série? Alors, ici, nous avons donc plusieurs personnages. Certains sont quand même plus importants que d'autres. Ça, il faut l'avouer. Il y a eu une mini polémique cet été autour d'un courrier que l'actrice qui jouait la femme de Walter White, Anna Gunn, avait écrite en disant que elle regrettait quand même le fait que son personnage était si mal compris et si mal apprécié du public. Et certains ont pensé que c'est parce que les scénaristes ne lui avaient pas donné suffisamment de chance de paraître sympathique. Bon, c'est vrai que Walter White et Jesse Pinkman sont quand même les personnages principaux de la série, ce sont eux qui prennent toute la place, et que sa femme autant que sa fille, voire mais sa fille, oui,
son fils
donc, mais c'est vrai qu'il a aussi une fille après, hein, mais sa fille sa belle-sœur ont une moins grande importance. Walter White étant probablement Walter Junior, pardon, étant probablement celui qui aura été le moins bien servi par les scénaristes, vu que à part être l'adolescent un petit peu basique qui n'a rien véritablement à faire à part être l'enjeu de il faut surtout pas qu'il l'apprenne, c'est pas un personnage extrêmement intéressant, mais bon, voilà. Alors pour ce qui concerne les personnages principaux, par contre, on peut dire que Walter White est un personnage absolument fascinant. Oui. Par sa transformation, hein, puisque c'est vraiment un pauvre type au départ, et on le voit petit à petit se transformer en monstre devant nos yeux.
C'est peut-être justement un des soucis au départ, je dirais, qu'il y a moyen de s'attacher à ce personnage, et au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons, il devient de plus en plus détestable, j'ai l'impression. Il devient même... il y a un énervement à le regarder agir de la sorte.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que si on avait véritablement un grand attachement affectif à ce personnage-là, une grande identification, au fur et à mesure, on s'en détache, on est forcé par l'intrigue à s'en détacher, parce qu'il devient véritablement trop monstrueux pour qu'on puisse continuer à cautionner ce qu'il fait. Mais ça fait partie de l'intérêt justement du personnage, mm-hmm, qui se transforme, et c'est probablement un grand tour de force de la part des scénaristes d'avoir réussi justement vis-à-vis d'un personnage auquel on pouvait s'identifier au départ, de continuer à nous donner envie de regarder, même si petit à petit on ne s'y identifie plus du tout.
De moins en moins.
Hein? Okay. Et par contre, on peut voir le chemin inverse qui s'opère pour deux autres personnages qui, eux, au départ, n'avaient pas forcément la sympathie immédiate, c'est-à-dire Hank, le beau-frère qui est dans la première saison le gros beauf par excellence, hein, le mec qui se vante, qui est bête et qui a simplement plus de pouvoir que les autres et qui en abuse, qui se moque de Walter et qui le fait passer un petit peu pour plus minable encore qu'il ne l'est, et qui petit à petit, justement avec les épreuves qui vont lui arriver, va se révéler être un personnage beaucoup plus attachant, plus intelligent et plus intéressant qu'on ne l'aurait cru. Et on peut voir que c'est exactement la même chose qui se passe aussi avec Jesse Pinkman, oui, qui était un petit voyou de base et qui petit à petit va devenir véritablement le personnage
attachant
et qu'on veut voir s'en sortir.
Mm-hmm.
Hein?
Bien, bien.
Donc, oui, au niveau des personnages, on peut dire que là aussi, la série a plutôt rempli ses conditions. Hein.
You don't smoke. You haven't smoked since college. You can't be serious with the baby and Walt. Skylar, you're not smoking around the baby, are you? And you can't smoke here. There's got to be some rule or regulation. I'm sure you can't force your employees to breathe secondhand smoke. I know for a fact that that is illegal.
Marie, shut up.
What? I'm sorry. Please don't speak to me like that. I am simply saying that you
will
can't
you shut up?
To...
Hey. Shut the hell up. Shut up. Shut up.
Skylar,
shut up.
Please
shut
stop.
Up.
I...
Shut up. Shut up. Shut up. Shut
hey.
Up. Shut up. Shut up. Shut up.
Extrait magistral où la femme de Walter White pète littéralement les plombs. Allez, on continue de décortiquer cette série magnifique qui est Breaking Bad avec sa créativité notamment.
Oui, tu l'auras remarqué comme moi Ben, cette série est aussi très intéressante pour sa manière très créative de nous proposer ses épisodes. Alors, on a notamment une façon qui revient assez souvent de présenter les épisodes en commençant par la fin, en tout cas pendant les premières secondes, voire minutes, où on voit des images assez déconcertantes, et puis c'est seulement l'épisode qui va nous permettre de découvrir comment les personnages en sont arrivés là. Ça, c'est un procédé qui arrive assez souvent. On a même une saison complète qui est basée sur ce principe-là, puisqu'au tout début de la saison, on voit des images dont on ne comprendra véritablement le sens qu'à la fin de la saison.
Hein.
Et puis, on a aussi... au minimum, un épisode concept qui est le fameux épisode de la mouche où pendant une heure, on va pouvoir regarder Walt et Jesse chasser une mouche dans le laboratoire. C'est le genre de petits épisodes comme ça qui font toujours plaisir aux fans parce que c'est vraiment un épisode concept.
Voilà, c'est un écart et donc une grande originalité dans le mode narratif. C'est très plaisant.
Voilà, exactement. Donc à ce niveau-là aussi, on peut dire que la série est plutôt un carton plein. Et puis on passe au propos. Et pour le propos, ben on peut aussi dire que la série a plutôt pas mal de choses à nous dire. Elle nous interroge, elle nous présente des questions, et c'est un petit peu à nous de faire le tri. Elle ne nous donne pas les réponses, mais en tout cas, elle pose des questions plutôt profondes, notamment sur la question du mal. Est-ce que un individu peut incarner le mal, et qu'est-ce que c'est le mal individuel? Ou bien aussi éventuellement une critique de l'hypocrisie de certaines valeurs bourgeoises comme les valeurs de la famille, puisque Walter White utilise constamment la famille comme excuse pour justifier véritablement des actes totalement immoraux.
Oui, et odieux, oui.
Voilà. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets. Hein. Cette série, si on la décortique, pourrait faire l'objet de plusieurs livres, tellement c'est intéressant et tellement c'est questionnant.
Au niveau du propos.
Au niveau du propos, oui.
Différents sujets abordés. Très
voilà.
Bien. On va terminer par l'univers qui est apporté par cette série. Moi, je me souviens d'épisodes où j'ai chaud avec eux. Tu vois, un univers qui m'emporte, j'ai chaud dans les paysages de désert, là où ils sont en train de cuisiner leur mésamphétamine. Je suffoque aussi avec eux quand ils ont certains problèmes lors de la cuisson de leur mixture. Donc on peut dire que l'univers est bien retranscrit, on baigne dedans.
En tout cas, oui, on a véritablement la proposition d'un univers en tant que tel, avec en effet des paysages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui sont les paysages du Nouveau-Mexique. Et c'est vrai que dans les séries télévisées, c'était relativement nouveau de voir ces paysages-là. On a En effet, tout un travail autour de cette identité américaine, mais en même temps très proche du Mexique, et donc avec beaucoup de rappels à la culture latino, à travers notamment la chaîne de restaurants de Gus Fring qui s'appelle El Pollo Hermano, à travers évidemment toutes les histoires de cartels, ce fameux épisode où on voit le bandit, la tortue qui finit justement décapité avec sa tête collée sur une tortue. Enfin, plein de choses comme ça qui permettent de véritablement mettre en place un univers qui nous semble cohérent et totalement crédible, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, enfin, moi, j'en ai un très très bon souvenir. On est vraiment transporté pendant toute la durée de l'épisode.
Voilà, on est à Lyon pendant une heure et on nous propose simplement d'accepter le concept. Et franchement, il faut être de mauvaise volonté pour pas se plonger dedans, je crois.
Bien. Voilà, on va marquer une petite pause musicale en rapport avec la série Breaking Bad. On va retrouver, je pense, la balade pour Heisenberg.
Oui, justement en rapport avec cet univers latino, hein, puisque c'est au début d'un épisode où on entend cette musique-là qui est censée être composée par des Mexicains pour glorifier le grand dealer qu'est Heisenberg.
Très bien, on se retrouve juste après cette pause musicale.
La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa.
La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
so there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Nous en sommes déjà arrivés à la machine à remonter le temps. Le principe est de redécouvrir une série qui a été diffusée il y a quelques années, qui est terminée. Et comme la musique l'indique, nous allons parler de Oz.
Oui, Oz, série HBO créée par Tom Fontana et qui a été diffusée de 1997 à 2003. Alors, pour resituer un petit peu de quoi il s'agit, nous sommes dans la prison de haute sécurité d'Oswald, d'où le nom de Oz qui est le diminutif donc du nom de la prison, et plus spécifiquement, en tout cas la plupart du temps, dans une aile de cette prison qui est une aile un peu concept où les prisonniers sont un peu plus libres de leur mouvement, qui est l'aile Emerald City, donc la cité d'émeraude, et dans laquelle nous allons retrouver toute une série de personnages, tous plus pervers et plus dangereux les uns que les autres. Hein? Un des principes quand même de la série, c'est qu'on peut être persuadé qu'à peu près à chaque épisode, on va voir au moins une personne mourir. Hein.
Je dirais même plus. Hein.
Souvent, c'est plus, oui.
Voilà.
Alors, on s'écoute un petit extrait et puis je vous donnerai trois raisons de regarder cette série.
Happy birthday to me. Happy motherfucking birthday to me. Happy birthday
to Kenny. Happy birthday to you.
Tout comme les auditeurs, je suis impatient de connaître ces fameuses raisons qui nous pousseraient à nous infliger toutes ces morts atroces, épisode après épisode dans cette série. Alors dis-moi, Aurore, quelles seraient nos motivations ?
Alors, première raison pour vous donner envie de regarder Oz, vous allez avoir devant les yeux une galerie de personnages tous plus fascinants les uns que les autres. Alors, bon, certains sont attachants, mais il faut quand même faire attention à pas trop s'attacher dans l'univers de Oz, il vaut mieux pas.
Ils ont tendance à disparaître assez rapidement d'ailleurs, parfois.
Certains, en effet, disparaissent assez rapidement. Et puis, surtout, on a certains personnages qui sont absolument fascinants, mais par leur cruauté. Ils ont un charisme de la perversité, comme ça, on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné et à avoir envie de continuer à les regarder faire des choses absolument atroces.
Voilà, tu prends ton plaisir. Je vois bien que ça t'excite, ce genre de comportement.
Oui, oui,
c'est un peu inquiétant, quand même.
Désolé.
Oui, ok.
Donc ça, c'est la première raison. Alors, pour citer certains personnages, on va avoir le personnage, le chef des nazis, Hank Schillinger. On va avoir un grand noir, Simon Adebisi, qui est particulièrement violent également.
Oui.
On va avoir d'autres personnages peut-être un petit peu plus attachants, comme Tobias Beecher ou bien Ryan O'Reilly, même si lui aussi peut parfois se révéler particulièrement pervers.
Et violent, oui.
Et puis, on a aussi dans le pervers magnifique Chris Keller, qui vaut vraiment le détour. Donc, on a véritablement de quoi faire avec cette série. On va pas s'ennuyer.
Au niveau des personnages.
Au niveau des personnages. Ça, donc, c'était la première raison. Et déjà, rien que ça, je vous jure
que
ça vaut le coup.
Voilà, ça suffit amplement.
Ça suffit déjà. Mais en plus, on va pouvoir retrouver aussi un certain propos politique, parfois, qui est aussi intéressant dans la manière de traiter certains personnages, de les montrer déjà rien que de montrer ces personnages qui sont à la fois des gens véritablement violents. On est parmi les personnes les plus violentes que la société peut produire, mais en même temps, on les voit aussi sous des visages souvent beaucoup plus humains. Parfois même, notamment avec le personnage de Miguel Alvarez, on va voir à quel point le destin semble s'acharner sur certains, puisque Miguel Alvarez est quasiment en prison de manière héréditaire, puisque son père était en prison et son grand-père lui aussi était en prison, et il le retrouve même dans la prison de Oswald. Donc, on a ce propos-là et aussi un propos plutôt critique sur la peine de mort, puisque au fur et à mesure des saisons, on va voir pas mal de personnes être exécutées, mm-hmm. et à chaque fois de manière qui remet sérieusement en question cette pratique.
Le processus, oui.
Voilà. En plus de ça, certains épisodes s'accompagnent aussi d'un propos beaucoup plus militant sur le fait, notamment, que les prisons, comme elles se trouvent dans des contrées plutôt à majorité blanche, permet de récolter un plus grand poids au niveau des élections, alors qu'en vérité, les personnes qui sont dans les prisons n'ont pas le droit de voter, et donc c'est totalement antidémocratique, mm-hmm. comme pratique. Donc on a aussi ce genre de propos-là dans cette série. Okay. Enfin, dernier élément qui devrait vous donner envie de regarder la série, si ce n'est pas encore fait, mais c'est la jouissance de regarder cette violence. On a de tout, hein. On a autant du sang, du cul, de la violence verbale. On a de tout.
C'est un peu un grand n'importe quoi dans la violence. C'est, je dirais, sans limite.
Oui, ça paraît sans limite. Dans la représentation notamment de la nudité des acteurs, on y va à fond. On ne nous épargne quasiment rien. Mm-hmm. Et c'est plutôt jouissif de regarder ça, je dois dire.
Oui, à force, ça devient un peu... On se demande qu'est-ce qu'ils vont bien encore pouvoir nous inventer de pire que ce qu'ils ont fait l'épisode précédent. Et ils y arrivent toujours.
Et ils y arrivent, oui.
C'est voilà. Donc il y a un petit côté comique, ludique derrière cette violence gratuite.
on peut dire ça comme ça. Strange love, cutest thing I ever seen. Strange love, cutest thing I ever seen. You remind me of something that I have seen in a dream. Can I take you out to dinner? Some place where we can be alone. Can I take you out to dinner? Some place where we can be alone. Tell you how much I love you, then let me hold you in my arms.
Écoutez à l'instant un extrait de la BO de la série True Blood, Slim Harpo avec Strange Love. Voilà, il est déjà grand temps de nous quitter. Je te propose, Aurore, de nous expliquer un petit peu quels sont les sujets qui seront abordés lors de la prochaine édition de Série Folie.
Alors, pour la semaine prochaine, Benj nous a concocté un sujet bien, bien carabiné. Les séries créent-elles des masses abruties, conformistes et dociles?
Ouch, ça y est, j'ai déjà mal à la tête.
Eh bien, c'était le but.
Oh, super, bon, je me prépare pour la semaine prochaine.
Alors, à part ça, dans la critique, nous allons voir une série qui commence à vraiment devenir très intéressante, c'est Person of Interest. Mm-hmm. Et puis, on va aussi prendre la machine à remonter le temps pour aller voir une petite série Freaks and Geeks.
Ok, très bien. Du tout beau au programme, je pense, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut encore dire à nos auditeurs? C'est que l'émission sera disponible en podcast sur Internet via les pages Facebook de l'émission. www.facebook.com/seriefolie en un mot et avec un S à série.be ou bien encore via notre page Facebook de la radio, le www.facebook.com/mixfm.be. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À très bientôt, Aurore. Merci à vous tous d'avoir été fidèles au rendez-vous. Ciao.
Ciao.
Et une dernière petite chose, on se quitte en musique, évidemment, avec un titre que vous avez l'habitude d'entendre dans la playlist de Mix FM, Icona Pop avec I Love It, sorti de la série Girls. Bye bye. I got this feeling.
Please, we gotta kill this witch. You're from the 70s, but I